On est en live. Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On s'excuse un petit peu du retard pour quelques problèmes techniques. On se retrouve ce soir avec Barry et Rekoba et on espère que tout le monde va bien.
Ça va, impeccable.
Alors on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce Paris Saint-Germain-Toulouse. Toulouse qui a quand même vendu chèrement sa peau, a proposé du jeu comme au match aller. On n'est pas très surpris, c'est une équipe qui fait du bon travail depuis qu'elle est revenue en Ligue 1. C'est une équipe qui s'appuie sur son centre de formation et sur la data. Et on a vu ce soir que c'est une équipe qui peut encore poser des problèmes au PSG dans le jeu, mais aussi sur coup de pied arrêté. On a vu un magnifique coup franc de Toulouse converti en but. Et on a vu un deuxième but de Toulouse qui, heureusement, était hors jeu, mais lui aussi sur coup de pied arrêté. Donc on voit que cette équipe est une équipe quand même assez dangereuse sur coup de pied arrêté. Pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les mecs?
Ah, vas-y, Rekoba, on a renouveau.
Je suis pas nouveau là. qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Sincèrement, franchement, déjà, première chose, je suis juste content des 3 points, on va pas se mentir. Vu la physionomie du match, on a été mené 4 fois 1-0, 2 fois on a perdu, donc là on a réussi à gagner, c'est bien. Vu le calendrier qui nous attend, tous les blessés qu'on a et les contenus de match qui sont vraiment un peu catastrophiques depuis la Coupe du Monde, franchement, je suis vraiment content des 3 points. Surtout que Lens aura un match compliqué à Brest et Marseille va devoir manœuvrer Nice qui sort de 2 gros matchs, donc il y a moyen qu'ils perdent des points aussi. Donc voilà, content. En plus, ils ont failli égaliser aussi à la dernière minute, hein, Donnarumma qui fait un arrêt réflexe important. Donc, à la sortie de ce match, il y a pas mal de joueurs sur lesquels on peut taper, mais je suis quand même content d'avoir pris les 3 points, sincèrement. Il y a un énorme calendrier qui nous attend et avec des gros, gros adversaires. Donc, d'avoir pris 3 points là, c'était important quand même.
Plus ou moins d'accord avec Rekoba. Oui, je suis très content des 3 points. Mine de rien, on n'a pas vu une mauvaise équipe du Paris Saint-Germain ce soir. Hein. Faut se dire les choses. Maintenant, moi, c'est une analyse que j'ai eue tout à l'heure en Space. Je pense clairement qu'on arrive aux limites de cette équipe, que le coach ne pourra pas faire mieux et que même il a fait un très bon match au vu des qualités qu'il avait. Tu ne pourras pas faire mieux avec cet effectif-là et je pense que là, il faut arrêter de tacler sur le coach. Il faut arrêter de dire que le coach ne met rien en place. Pour moi, à ce niveau-là, c'est faut taper plus haut.
Barry, je suis obligé de te couper, désolé, mais merci à Eve pour son magnifique but qui en a marqué plus que Hugo Ekitike ce soir. On reparlera tout à l'heure.
Merci beaucoup, Eve.
Mais
clairement, je pense qu'on est arrivé aux limites de cet effectif-là. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire mieux. Pour moi, on ne peut plus tacler le coach. Pour moi, il faut aller plus haut. Parce que je suis d'accord avec Rekoba. Tu parlais du match de Toulouse qui a fait un très bon match. Mais les mecs. On est le PSG. Enfin, on n'est plus le PSG des années 2000. On est le PSG des années 2010. Donc, on est le PSG sous QSI. Donc, là, clairement, il peut pas faire plus. Pour moi, il faut viser au-dessus. Si on veut parler de plus tard des manques de certains joueurs, là, il faudra parler de Campos et puis du coach, quoi. C'était un aparté que je voulais faire, hein, mais globalement, le match, oui, j'ai trouvé un match assez intéressant aujourd'hui.
Justement, pour venir plus au match, le premier thème de ce soir, c'était un PSG en double régime. Et je fais exprès de titrer ça parce que j'ai une impression depuis plusieurs matchs. Le PSG en première mi-temps, c'est à la ramasse. Et je ne sais pas ce qui se passe à la mi-temps. Ils doivent se crier dessus, ils doivent s'insulter, ils doivent se dire les choses. Mais en deuxième mi-temps, tu ne vois pas la même chose. Et je ne sais pas si vous partagez ce constat justement, les gars, mais moi, j'ai eu cette impression de ne pas avoir le... J'ai l'impression, notamment chez certains joueurs, de ne pas avoir les mêmes intentions de jeu. Peut-être que les changements de certains joueurs et les entrées de certains ont aussi permis d'autres intentions, mais j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même PSG en première et deuxième mi-temps.
Je sais pas, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un problème de... C'est pas un problème, mais c'est aussi, je pense, l'ego des joueurs qui parlent. J'ai vu une différence, par exemple, quand on a eu les deux pénaltys ratés, les deux buts refusés, j'ai senti quand même un PSG différent qui avait envie de... Tu sais, un peu comme quand le sort s'acharne, t'es revanchard, t'as envie de marquer encore plus, t'as envie de gagner encore plus tes duels. C'est comme quand un joueur, il dort un petit peu, il vient se manger 2-3 taquets. Derrière, il se réveille un peu, il va mettre des taquets aussi, tu vois. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le PSG en ce moment. Il faut d'abord qu'on leur rentre dedans ou qu'il se passe, qu'on prenne un but ou qu'il y ait un fait de jeu qui est contre nous pour qu'ils se mettent un petit peu à gagner des duels. Regarde par exemple Fabien Ruiz, première mi-temps, il dispute quasi aucun duel, il gagne aucun duel. Deuxième mi-temps, il récupère plusieurs ballons, il gagne des duels, enfin il rentre dedans. Match de Montpellier, pareil, à partir du moment où il marque un but, il se réveille complètement. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est un peu les Parisiens qui sont un petit peu suffisants, hein, comme souvent, et qui, quand ça ne se passe pas comme il faut et qu'il faut vraiment se réveiller ou qu'ils se font bouger, se réveillent. En tout cas, c'est clair qu'il y a toujours une différence entre la première et la deuxième mi-temps, mais dans les gros matchs qui arrivent, il va falloir faire deux mi-temps aboutis.
Et je voulais remercier Harry pour son don et aussi pour sa référence à Yannick Noah, et je peux le comprendre également quand on voit certains matchs dans le contenu.
J'en ai marre.
Exactement.
De cette équipe qui pomole tout le temps.
Mais c'est exactement ça, je suis sûr qu'il voulait faire la
réponse. Je devais prendre cette responsabilité. Hein.
Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement, Barry, de cette équipe en double régime, peut-être à réaction, comme l'a dit Frédéric dans les commentaires.
Pour moi, c'est pour nous faire taire. C'est clairement pour nous faire taire, parce que on dit, par exemple, je prends l'exemple, j'ai regardé la conférence de presse hier, et c'est Achille qui a posé une très bonne question au coach. Il lui a dit, vous avez l'habitude de mettre de la pointe dans votre équipe, et pourquoi vous avez un Paris Saint-Germain qui ne vous ressemble pas? Cette question, qu'est-ce que ça sous-entend? Elle sous-entend que depuis le début de saison, on dit que clairement, il n'y a aucune patte Galtier, et qu'on trouve qu'il ne bouge pas assez ses joueurs. Et bah, pour moi, depuis deux matchs, non, c'est faux. Tu regardes le dernier match contre Montpellier, on fait une première mi-temps catastrophique, on sort des vestiaires et il y a un autre visage qui est montré. Pour moi, ça fait pas 30, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est que le coach, il a tapé du poing sur la table. c'est que le coach, il a tapé du poing sur la table. Et puis surtout, moi, je prends, pour revenir au match de Montpellier, après je reviendrai au match d'aujourd'hui, mais au match de Montpellier, c'est l'ensemble de l'équipe qui a changé son visage. Et là, ce soir, c'est encore pareil. C'est l'ensemble de l'équipe qui a changé son visage. Tu prends Lionel Messi en première mi-temps, Lionel Messi en deuxième mi-temps. C'est un autre visage qui montre. C'est d'autres lignes de passe qu'il trouve. Donc, clairement, ça veut dire que le coach a tapé sur toutes les lignes sur le terrain. Donc, non, clairement, il y a une patte Galtier qui commence à se voir. Et comment ça se fait qu'on ne montre pas le même visage en première et en seconde période? Bah, je pense qu'en première période, l'équipe est un peu plus attentiste. Et qu'en deuxième période, on a quand même le coach qui commence à leur dire, les gars, on est le Paris Saint-Germain, commencez à vous réveiller. Et ça se ressent sur le terrain. Mais globalement, même en première période, moi, je trouve pas qu'on a fait un si mauvais match que ça. Alors, autant offensivement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de déchets qu'on a moins retrouvé en seconde période, et c'était la même chose à Montpellier. Autant j'ai trouvé que dans la globalité, à la perte du ballon, il y avait quand même des efforts qui étaient mis en place. Moi, globalement, il y a juste une chose que je trouve incohérente, c'est le placement de Vitinha. Alors c'est pour mentir un peu, parce que lorsqu'il l'a mis numéro 10 face à Montpellier, j'ai dit sur les réseaux que je trouvais que c'était que ça pouvait être une bonne idée. Finalement, force est de constater qu'à Montpellier, il m'a prouvé que c'était faux, et encore ce soir, c'est encore plus faux. Donc je comprends pas pourquoi il continue à être là-bas. À part le fait que Neymar est blessé, mais dans ces cas-là, Carlos Soler est à numéro 10. Pourquoi Carlos Soler n'occupe pas cette position-là? Et pourquoi Carlos Soler joue aussi? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi Carlos Soler joue? non mais attendez. Pourquoi Carlos Soler est encore à la 75e minute sur le terrain?
Elle est là, la vraie question. Le pire, c'est qu'à force de jouer, je pense qu'il va jouer contre le Bayern. Hein.
Non, là, mais oui, pourquoi Carlos Soler est encore sur le terrain à la 75e minute? Et pourquoi Carlos Soler est sur la feuille de match? Pourquoi Carlos Soler est titulaire? Au vu de ce qu'il fait depuis le retour de la Coupe du Monde, pourquoi ce gars-là ne mange pas le banc? Moi, je ne comprends pas.
Les stats.
Il nous dit qu'il y aura plus de concurrence, mais tu te demandes, elle est où la concurrence?
C'est un truc qu'on reprochait aux remplaçants avant, notamment Sarabia, de ne pas avoir de stats, tu vois, et bah lui, malheureusement, il a 6 buts, 3 passes décisives, donc t'as presque l'impression, tu vois, si tu te fies que aux stats de buts, passes des, tu pourrais presque croire qu'il fait une bonne saison, tu vois, c'est pour ça que je te dis, les stats l'aident pas mal.
Nouvelle rubrique au sein du Paris Central, l'instant, j'ai une théorie, et je pense que cette théorie ne fera pas jeter la chaîne, donc je peux la dire ici, je pense que Carlos Soler a une sextape de Galtier, parce que c'est pas possible. Ça ne sautera pas la chaîne, t'inquiète, il n'y a aucune insulte, ça ne sautera pas la chaîne et la vidéo ne sautera pas, elle sera monétisée les gars. Je pense que Carlos Soler a une sextape de Galtier, car c'est pas possible. Comment ce gars-là, depuis le retour de la Coupe du Monde, alors je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, je le pense, mais je suis pas en train de dire ça. Au bout d'un moment, il l'a dit au match, parce que en vrai, je dis ça sur le ton de l'humour, mais il l'a dit après, je crois que c'était contre, après Reims, non, qu'on a joué où on a fait un match catastrophique, on se faisait rentrer dedans. Il y a des statuts qui vont être mis en cause, il y en a qui ne donnent pas satisfaction, etc. Au final, il n'y a personne qui est sur le banc. Alors, il y a des blessures, oui, mais Carlos Soler, je pense qu'il était visé, et Carlos Soler n'a rien à faire ce soir sur le terrain. Pas pour dire qu'il est mauvais, mais fais-lui manger le banc, qu'il se réveille un moment, qu'il se réveille un peu.
Mais il fait pas manger, enfin, il a du mal. Regarde Sergio Ramos qui, je suis désolé, j'ai du mal à me rappeler de match référence de Sergio Ramos au PSG cette saison, qui va d'ailleurs être le prochain sujet de la rubrique du débat de ce soir. Est-ce que Marquinhos ne joue pas mieux sans Ramos? Est-ce que Ramos n'est pas le boulet que traîne Marquinhos depuis qu'il est titulaire contre Saint-Étienne?
À ce niveau-là,
Bah,
c'est une affirmation.
débat ouvert. À
déjà,
ce niveau-là, c'est une affirmation.
juste par rapport à Vitinha Solaire, déjà, l'interview de Galtier, elle était lunaire. Hein. Ça veut dire, clairement dire qu'il n'y avait pas de concurrence. Et c'est pas normal, déjà. Et c'est pas le seul truc qu'il a dit qui était assez incroyable, mais bon, bref. Mais c'est clair que quand tu vois l'entrée de Zaïre Emery ce soir, il a joué quoi, une demi-heure, je crois, quelque chose comme ça, 20 minutes. Mais c'est le jour et la nuit à côté de Vitinha et Solaire. Il y a de la récupération, il y a de la percussion, il y a du harcèlement, il y a les bons choix faits au bon moment.
Du muscle.
Enfin, c'est, mais il y a une différence énorme entre Vitinha, Solaire et Zaïre Emery. Et c'est assez incroyable de voir le coach qui parle de concurrence et de voir que finalement, Zaïre Emery n'a que des bouts de match. Mais je suis désolé, peu importe l'équipe qu'on jouera plus tard, je préfère largement un Zaïre Emery au milieu qu'un Vitinha ou un Solaire. Il y a beaucoup plus d'impact, il y a beaucoup plus de technicité, de bons choix. Enfin, ça n'a rien à voir. Vitinha, c'est un
Du
très bon joueur,
football.
mais ça fait un petit moment maintenant qu'il a perdu son football. On lui a laissé du temps et continue à jouer. C'est important quand même de, on va dire, de réitérer la confiance que tu as en certains joueurs parce qu'il leur faut des fois des matchs pour revenir. C'est le cas de Fabian Ruiz d'ailleurs, mais Vitinha et Soler, ce n'est pas le cas. Donc à un moment donné, Vitinha Soler, Vitinha, il a 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il est jeune aussi. Donc qu'on ne dise pas lui, on va le laisser parce qu'il n'est pas jeune et on dit Zaïre Emery, il est jeune. Non, il est jeune comme Zaïre Emery au final, même si Zaïre Emery a 16 piges. Mais Zaïre Emery est beaucoup plus mature et fort dans son jeu et fait les bons choix au bon moment. Il apporte bien plus qu'un Vitinha. Donc à un moment donné, il va falloir faire ce changement. Je suis désolé. Après, Soler, il joue plus haut. Même s'il a testé un petit peu Vitinha 10, Soler a joué plus haut et malheureusement, on n'a pas d'option sur le banc. Donc ça, je peux comprendre. Mais à un moment donné, quand tu as Zaïre Emery et tu vois le niveau de Vitinha ce soir, tu es obligé de mettre Zaïre Emery. Je suis désolé.
Tiens, d'ailleurs, justement, il y a Frédéric qui souligne que Zaïre Emery, son rush
Mais bien
en fin de
sûr.
match, bon, on l'a tous vu ce rush-là où bah, il met un coup d'épaule, tu crois qu'il va prendre un tacle, il est toujours debout, il
Mais
prend un
même
deuxième
quand il
tacle, il est
récupère les
encore
ballons, tu l'as vu
debout.
récupérer les ballons. Il te met un coup de physique, il récupère la balle, il tient le choc, il relance derrière. Après, il met un rush, mais il perd le ballon malheureusement. Mais tu vois pas Vitinha faire ça?
Mais je tweetais hier, justement, ironiquement, qu'il y avait plus de muscles dans les jambes de Zaïre Emery que dans le corps entier de Sergio Busquets. Et en même temps, quand tu vois le gabarit du jeune homme, je pense que t'es pas si loin de la vérité.
Ah oui.
Vas-y Barry, après on enchaînera sur le sujet Marquinhos
Oui,
Ramos.
c'est vrai, pardon.
J'ai une théorie. Je pense que
Une autre.
Warren, je pense que Warren ne joue pas, car Galtier, qui est l'ami de Campos, veut nous faire croire que le mercato n'est pas raté. Moi, c'est ce que je pense. Non, plus sérieusement. En fait, j'ai rien d'autre à rajouter. Autant sur Vitinha, je suis un peu moins d'accord. Parce que Vitinha, quand même, c'est dans les derniers choix.
Kebab, c'est
Bref,
Sabrico Fred, excuse-moi.
ne regardons pas ça,
Oui,
j'ai envie de
vas-y,
dégueuler
pardon.
carrément en voyant ça. Mais en plus, heureusement, pour le cas, juste les gars, parce que je m'entends un écho derrière, donc si vous pouvez couper vos micros, Rico.
Moi?
Ouais, je crois que j'entends un écho derrière, je m'entends. Ouais, donc je disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, sur les cas Vitinha. Bah, Vitinha,
Vitinha.
c'est dans les derniers choix où je l'ai trouvé mauvais. Mais globalement, dans ses déplacements, il n'a pas été si mauvais que ça. Alors après, il y a eu son placement aussi en tant que numéro 10. Des fois, il était un peu mal placé. Des fois, il se repositionne en position numéro 8. C'est normal, quand tu as des réflexes à un poste, c'est vrai que c'est son deuxième match à ce poste-là. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de savoir où bien se placer. Mais globalement, il était intéressant dans ce déplacement. Dans le dernier geste, un peu moins. Mais Carlos Soler? Je suis désolé hein, parce que les gens pensent que je fais une fixette sur lui. Je fais pas une fixette sur lui. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il y en a un autre que j'ai encensé ici, Fabian Ruiz. Alors autant je l'ai trouvé très intéressant dans ses déplacements, autant dans le dernier geste, je passe. Autant l'impact physique, je passe. À un moment, il tente un coup de physique. Arrête, arrête, arrête. Tu fais 1m80, je sais pas combien, mais t'as pas de physique. Arrête, arrête de nous bluffer là. Arrête de nous baratiner là. Tu vois, je pense qu'il a vu les tweets là, c'est pas possible. Mais sur le cas Carlos Soler, alors déjà, il a une position que je ne comprends pas, étant donné que Carlos Soler est un numéro 10. Alors pourquoi ne pas intervertir les deux? Peut-être que c'est parce qu'il se dit, bah, j'ai envie. Je pense, hein, je pense qu'il fait ça parce qu'il a envie d'avoir Fabian Ruiz sur le côté gauche et que Vitinha aussi joue côté gauche. Et donc, il n'a pas envie de brider Fabian Ruiz en le mettant côté droit. Et il doit se dire ça. Mais même dans ce sens-là, ça n'a aucun sens parce que Carlos Soler, vous regardez son positionnement de numéro 10, bah, c'est quelqu'un qui mange le côté gauche. Mine de rien. Donc en fait, il y a trois joueurs qui peuvent jouer à gauche au milieu de terrain. Donc il a fait le choix peut-être de se dire, bah, il a pris le choix entre les deux, Vitinha et Fabian Ruiz. Je pense qu'ils ont des qualités footballistiques au-dessus de Carlos Soler. Donc il a dû se dire, bah écoute, j'ai plutôt envie d'avoir Fabian Ruiz à ce niveau-là pour qu'il puisse me remonter les ballons et pour qu'il y ait un semblant, mais vraiment entre guillemets, semblant de physique, de taille, je dirais. Et il s'est dit, bah écoute, je vais mettre Vitinha proche de Messi, parce que Vitinha, mine de rien, dans les petits espaces, il peut être très intéressant. Mais alors, dans ces cas-là, il faut m'expliquer pourquoi Carlos Soler est sur la feuille de match. Moi, personnellement, Carlos, après, c'est mon avis, hein, mais je ne suis pas coach et je ne suis pas prêt de remettre en cause le travail de Galtier, parce que, comme je l'ai dit, tu ne peux pas faire plus avec cet effectif-là. Je pense qu'on arrive à la limite. Mais tout simplement, Carlos Soler, tu le mets sur le banc. Carlos Soler serait sur le banc en remplaçant de Vitinha. Et dans ces cas-là, laisse une deuxième titularisation à Warren. À Warren, tout simplement. Et en plus, on l'a vu, Warren qui rentre, il prend le poste de numéro 10 de Vitinha. Au dernier match, il te met un but excentré côté droit. Et encore aujourd'hui, il te fait une percée excentrée côté droit. Donc, je ne suis pas fou. À un moment, c'est que naturellement, dans son positionnement, il a capté qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Je ne suis pas bête. Le petit a quand même Le petit a 16 ans, il a une vision de jeu qui est quand même au-dessus de la moyenne pour son âge. Donc, il a capté. Si moi, je l'ai capté dans mon canapé, il l'a capté. Je ne suis pas fou. Alors, pourquoi Carlos Soler continue à jouer sur ce milieu de terrain-là? Alors, je peux comprendre l'expérience, le prisme de l'expérience aussi, et dans les stats aussi, parce que, mine de rien, en attaque placée, lorsque Carlos Soler est très bien placé, il peut être intéressant et il marque. Ok, très bien. Mais sur tous les autres aspects, il est mauvais. Et là, c'est un petit aparté, hein, mais je veux parler aussi d'un autre joueur, Ekitike. Qui est ce gars-là? Et pour revenir à ta question, c'était par rapport à Marquinhos. Donc, pour répondre à ta question par rapport à Marquinhos, oui, Marquinhos est mieux sans Ramos. Oui, mais c'est pas fini. Marquinhos est mieux sans Ramos et aussi lorsqu'il a un numéro 6 devant qui est bon tactiquement. Ça lui évite de toujours de vouloir corriger toutes les brèches à droite à gauche. Mais c'est fou. C'est fou d'avoir un effectif et de se dire qu'il y a tellement de brèches que des mecs comme Marquinhos, que des mecs comme Verratti, que des mecs aussi comme Vitinha, parce que lui aussi Vitinha a couvert des brèches de Carlos Soler aujourd'hui, que des mecs comme Vitinha et tous les autres joueurs au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas pratiquer leur football, ils doivent pratiquer un football de couverture de brèches. C'est impressionnant. C'est fou. Hakimi aujourd'hui, il était partout. Exceptionnel. Enfin bref, je veux pas monopoliser la parole, on en reparlera après.
Hakimi sera justement un des débats de cette soirée, mais si tu es arrivé à l'heure, tu le serais déjà, Barry. Mais pour continuer justement sur le live de ce soir, le deuxième live et le deuxième sujet que vous avez complètement oublié d'évoquer ce soir, parce que vous avez préféré parler de Vitinha et Soler par pure haine, je ne dirais pas par lusophobie et hispanophobie, mais le vrai sujet de ce soir était, est-ce que Marquinhos doit pas être débarrassé de Ramos dans la défense centrale, parce que ça fait deux matchs que Marquinhos joue sans Ramos et on le voit en fait vachement plus à l'aise.
Non, mais il n'y a pas photo déjà entre la charnière Marquinhos-Ramos et la charnière Marquinhos-Danilo. C'est évident, je pense que ça saute aux yeux à tout le monde. On est beaucoup plus serein comme ça, il gagne beaucoup plus de duels. Et de toute façon, quand tu es défenseur, peu importe le niveau que tu as, si à côté de toi tu as un mec qui n'est pas serein, tu as un mec qui perce un contre un, tu as un mec qui n'est pas capable de monter sur un joueur et récupérer un ballon sans faire faute, mais forcément que t'es fragilisé toi aussi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un de serein, et au contraire, plus tu as un mec serein et fort à côté de toi, et plus tu vas être fort. Regardez Thiago Silva, Marquinhos, c'était très fort. Et même quand Kimpembe a commencé, je me souviens du match où Kimpembe met dans la poche Messi. C'est forcément aussi parce que tu as un gros joueur à côté de toi que ça te facilite. C'est comme ça. Dans une équipe, plus les joueurs sont bons à côté de toi et plus tu vas être bon, plus tu vas te sublimer, même si de base, tu n'es pas forcément bon. Et pareil pour El Shaddai. El Shaddai, quand il joue, il a fait un bon match, il a mis de l'impact, il a gagné ses duels. Et forcément, avoir un bon Marquinhos à côté, ça aide. Et pour Marquinhos, avoir un bon El Shaddai aussi à côté, ça aide. Donc forcément, c'est une paire, c'est un binôme qui va ensemble, qui marche ensemble. Et quand il y a un maillon des deux qui n'est pas bon, ça fragilise l'autre aussi. Donc pour moi, il faut partir de toute façon avec cette charnière Danilo Marquinhos, mais qui sait qu'on va mettre en 6, parce que ce soir Danilo a fait un bon match en 6 et malheureusement Renato s'est pété et Verratti après joue 6, mais je trouve qu'il ne sécurise pas assez notre défense. C'est que défensivement on n'est pas assez serein.
Pourquoi tu tenterais pas que Verratti joue 6, donc vu que ça a l'air de marcher?
Comment?
Pourquoi tu tenterais pas Thanos avec Marquinhos?
Thanos, c'est El Shaddai face au Bayern, c'est délicat quand même.
Si t'as personne d'autre.
C'est soit tu fais le choix de mettre El Shaddai Marquinhos et de mettre Danilo 6, soit tu mets Marquinhos Danilo et tu mets Verratti 6. C'est à voir.
Barry, qu'est-ce que tu penses justement de ce débat autour de Ramos?
C'est pas pour jouer l'insider, mais j'ai une info. Une réelle info.
Après, nous théorisons les infos.
Là, c'est une vraie info. Je viens de la recevoir. Là, je viens de la recevoir. C'est Santi qui vient de me l'envoyer. Apparemment, Ramos est venu au Paris Saint-Germain pour faciliter le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Parce que ce gars-là, il n'est pas venu au Paris Saint-Germain pour être footballeur. Arrêtez de me prendre pour un idiot. Ce gars-là n'est pas au Paris Saint-Germain pour être footballeur. Ou alors, s'il est footballeur, au Rio est footballeur aussi. Mon chat qui
dort. Oui, il joue au petit chevaux avec Hakimi et Mbappé.
Non, mais oui.
Là, tu m'étonnes, bravo. Tu étais dégoûté que Navas y parte.
Bravo.
Ah oui, c'est le quatrième.
Hein, il a piqué les gouttes de mon fils. Hein, et en plus, il joue au petit chevaux. Incroyable. Le fils que je n'ai pas en plus. Non mais plus sérieusement, qui est ce gars-là? Mais qui est le numéro 4 du Paris Saint-Germain? C'est qui nous a-t-on mis? C'est
pas possible. Quelle malédiction pèse sur le numéro 4 du Paris Saint-Germain? Ramos, Kerrer, Cabaye, Krikoviak.
Bon, après, Cabaye était mauvais, Krikoviak était mauvais aussi. N'allons pas abuser non plus, ne leur retrouvons pas les excuses, il était juste bidon.
T'es tendre avec Kerrer, hein, parce que c'est pas non plus devenu Van Dijk hein, du côté de West Ham. Hein.
Passe, je passe. Non mais on va revenir au sujet Ramos. Alors là, je lui tire un peu dessus, parce que mine de rien, Ramos, on peut lui trouver une qualité. Déjà, son leadership, j'attends toujours de le voir, parce que on nous a bluffé, la première saison aussi nous a bluffé avec ses... Mais au fait, non. Au fait, non.
Sa prépa physique, tu te rappelles des tests médicaux passés par Sergio Ramos, c'était impressionnant quand il passe sa visite médicale au PSG.
Ça marchait à Madrid, mais visiblement, quand le maillot est rouge et bleu, ça ne marchera pas. Donc Ramos n'aurait jamais pu jouer à Barcelone, je pense. Mais plus sérieusement, tu vois, il nous a bluffé avec ses à droite à gauche. La deuxième chose que je peux lui mettre à son crédit, c'est que lui, au moins, il essaye de trouver les ailes et il a un jeu long qui est très intéressant. Mais le mec est dépassé. Le mec, et ça se voit, parce que la question c'est Marquinhos, ça se voit. À chaque fois qu'il n'est pas sur le terrain, ça se ressent. Parce que je le dis sur le ton de l'humour, mais il y a une réelle analyse derrière. Moi, je vous invite à revoir les matchs de cette saison de Marquinhos avec Ramos et de Marquinhos sans Ramos. Ce n'est pas le même. Et vous vous rendez compte? Au début de saison, rappelez-vous, lorsque Danilo jouait en défense, on disait que Danilo était le meilleur dans cette défense. Non, Danilo était le meilleur à cette défense parce que Marquinhos pouvait enfin faire un travail de libéro qui était cohérent. Et donc forcément, bah Danilo pouvait être bon. Bah oui, regardez juste, on prend l'exemple de la défense à 3. Regardez juste le placement de Marquinhos. Mais regardez les libéraux, regardez les meilleurs libéraux du monde, même pas les meilleurs libéraux du monde, regardez juste les matchs de la défense à 3 avec De Vrij à l'Inter. Et regardez bien le travail de De Vrij qui n'est pas le meilleur libéro du monde, hein, loin de là. Bah, regardez bien. Marquinhos, lorsqu'il est en défense à 3, il est constamment orienté, même lorsque le jeu est face à lui ou lorsque le jeu était du côté de Kimpembe, il avait forcément à un moment une orientation qui allait vers le sens de Ramos ou la tête qui se tournait pour savoir si Ramos était bien placé. Ça, vous pensez que c'est rien? Parce que moi, j'aime bien me casser la tête à regarder les mouvements de tête, etc. Regardez, je vous invite à regarder les mouvements de tête de Messi, c'est exceptionnel. Mais j'aime bien regarder les mouvements de tête des joueurs pour voir s'ils prennent l'information. Et bien Marquinhos, il prenait constamment l'information vers Ramos pour savoir si le mec était bien placé, pour éviter que le mec soit dépassé. Parce qu'en libéro, on va lui demander de descendre et de monter. Et dans la défense à 3, ben Marquinhos, il était constamment orienté vers Ramos et il ne pouvait pas monter parce qu'il se disait, si je monte en position numéro 6, derrière, le gars il est lent et il est mal placé. Et si je redescends trop bas, c'est moi qui serai hors-jeu. Parce que je serais très bas pour me calquer sur les déplacements de ce gars-là, mais c'est moi qui couvrirai le hors-jeu. Donc en fait, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Et là, depuis la défense à 4, c'est pareil. C'est pareil. Marquinhos est constamment obligé de corriger les bêtises de Ramos. Et là, on le voit encore ce soir. Je suis désolé, mais les gars, c'est El Shaddai. Oui, c'est un jeune prospect sur lequel on mise. Mais j'ai répondu à c'est un jeune. Et pour le coup, on parlait de Warren. Lorsque Ricoba a dit oui, c'est un jeune, mais Warren, il est prêt. Mentalement et physiquement, il a la maturité, non pas la maturité, on s'en fout qu'il ait la maturité avec les femmes ou je sais pas quoi dans la rue, hein, je m'en fous de ça. Moi, c'est sur le terrain, la maturité footballistique. Et il a la maturité footballistique. El Shaddai ne l'a pas encore. Et pourtant, El Shaddai joue ce soir et tu sens un Marquinhos qui est meilleur. Danilo joue et tu sens un Marquinhos qui est meilleur. À un moment, je suis désolé, mais tout le temps, on tire sur Marquinhos, sur les réseaux et même sur cette chaîne aussi, on a tiré sur Marquinhos. Hein, faut se dire les choses, on a tiré sur Marquinhos. Et il a raison, parce qu'on ne va pas toujours mettre la faute sur les autres aussi. Lui aussi, il avait sa part de responsabilité. Mais force est de constater que ce mec-là, depuis une saison et demie, et tu te rappelles, tonton, j'en avais parlé la saison dernière sur Paris Central, il corrige toutes les brèches déjà de base et que maintenant, il doit corriger toutes les brèches en ayant un branquignol à côté de lui. Et oui, j'appelle ça un branquignol. Parce qu'aujourd'hui, Ramos n'est plus Ramos. Hein. C'est pas Ramos, Ramos maillot blanc. Hein. Maillot rouge non, et non, bleu, c'est
plus Sergio Ramos, là, c'est Sergio Ramos. Hein.
Ah oui, Sergio. Ah oui. Ah
oh, oui, non, mais là, il a découvert la France, il est très bien chez nous. Non. T'inquiète, il a son salaire. Il a son salaire, il ne bougera pas.
Non, mais c'est la vanne est bidon quand même.
Vraiment, la vanne est bidon, complètement. Il est éclaté au sol comme son niveau au PSG.
Après, j'arrête avec ça, mais il est bidon. C'est incroyable, il est bidon. Il a que son jeu long. Bah, si tu veux son jeu long, deviens milieu de terrain. Deviens milieu de terrain et puis c'est bon.
Attends, surtout que Danilo a un très bon jeu long aussi, donc bon.
Il est mieux que moi dans le chat. Il y a eu Sergio Vabos.
Non, mais en plus, Ricobert, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire Danilo a un bon gelon. Mais on s'en fout que Danilo a un bon gelon. Marquinhos a un bon gelon.
Ah oui.
Donc Marquinhos peut très bien le faire. Non. T'as un mec qui est là qui. Moi, je commence à croire aux théories qui disent que le Qatar met des pressions pour que les mecs jouent. Hein. C'est pas possible.
Mais bien sûr.
Moi, je commence à croire, c'est pas possible que le Qatar met des caprices et qu'ils se disent bah c'est des noms, ils vont jouer. C'est pas possible.
Je pense que même les joueurs eux-mêmes.
Parce que je moi, que je suis désolé.
Eux-mêmes, ils doivent demander à Nasser, ils doivent dire hey, « tu m'avais dit que je jouerais en venant signer chez vous. »
Je suis désolé, mais Ramos, aujourd'hui, il n'a que son nom, que la marque Ramos pour lui. Parce que footballistiquement parlant, il a rien. Et je vais même aller plus loin. À l'époque, on a ramené Beckham. Beckham, on sait que c'était pour le nom et c'était assumé que c'était pour le nom. On nous l'a dit clairement que c'était pour le nom. Mais Beckham était plus proche de son meilleur niveau que des Ramos est plus proche de son meilleur niveau au Paris Saint-Germain. C'est fou, les gars. C'est fou. Rendez-vous compte que c'est fou. Je préfère avoir Kerrer dans ce Paris Saint-Germain que Sergio Ramos, les gars.
Ça non, mais débat,
je vous
ça.
Le dis. Je préfère avoir Diallo qui est axe gauche, côté droit, axe droit, que Ramos, axe droit, axe... Mais c'est pas... Bref, vas-y, je m'arrête là parce que sinon je vais divaguer, mais je vais à un moment, je vais l'insulter. Je suis désolé, à un moment, je vais l'insulter parce que c'est pas possible d'être mauvais comme ça.
Avant d'entamer un autre sujet, il y en a un autre, bah, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais dans le chat, il est très 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 sollicité, donc à un moment, je vais être sympa, j'ai un peu donné à manger du pain à ce qui est demandé. Est-ce qu'on ouvre le classeur Renato ou on attend quand même une saison parce que les blessures là, c'est...
Ah, mais Renato, c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est un joueur qui a énormément de qualité. Quand il a joué ses matchs à Lille notamment, parce qu'en vrai au Bayern il n'a pas eu le temps de s'exprimer. À Swansea il a été plutôt bon, mais il a été souvent blessé. Donc il a toujours été souvent blessé. Et au PSG, voilà, c'est pas nouveau. C'est ça qui me fait chier d'ailleurs, parce qu'on a au final recruté. On avait déjà des soucis avec des joueurs énormément blessés, etc. T'as besoin d'un joueur qui répond présent au milieu et qui est régulier. Et au final, tu prends un Renato qui se blesse tout le temps. Mais résultat, il se blesse tout le temps, en fait, ça bouge pas. Et tu le savais, tu l'avais vu déjà, donc ça c'est, ouais, je comprends pas trop. Maintenant, ouais, c'est dommage et ça fait de la peine de le voir sortir en pleurs parce que c'est un très bon joueur, il a énormément de qualité et quand il reprend du rythme, on le voit, il est mieux. Là en 6, bah, mine de rien, il faisait un peu le taf, hein. C'était quand même encourageant je trouve, j'avais bien aimé contre Montpellier. Là il démarre, bon on n'a pas pu le voir beaucoup, mais j'aurais aimé le voir un peu plus quoi et je suis vraiment déçu qu'il se blesse comme ça. Maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de faire du social. Hein. On n'est pas là pour faire du social, donc ça c'est triste. Mais cet été, ça doit partir parce qu'il va revenir, il va jouer un match ou deux, il va se reblesser encore. Plus tu te blesses, plus tu deviens fragile. Donc, ça ne va pas partir comme ça par miracle. Il ne va pas devenir solide comme ça par miracle. Et donc, ben voilà, on n'est pas un centre médical, on n'est pas un centre social. Et il va falloir malheureusement le faire partir, tout simplement.
C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que les qualités sont indéniables. Mais malheureusement, en fait, le truc, c'est que quand tu prends un joueur qui se blesse souvent ailleurs, mais qui a un réel talent, bah, mine de rien, c'est un pari. C'est-à-dire que tu fais le pari de te dire que je vais réussir à corriger ça. Non mais plus, qu'est-ce qui fait que descends-le du chat là, tu vois le drapeau du Bayern là.
Non, je suis désolé mais il a pas tort.
Non mais c'est dommage parce que quand tu prends ce type de joueur là, c'est un pari. Tu prends le pari de pouvoir corriger ses blessures. Et malheureusement, je pense que le pari est perdant. Là pour le coup, je ne tire pas sur Campos parce que voilà, le talent c'est indéniable. Renato,
le transfert est pas si cher en plus, c'est pas comme si tu le recrutes à 60 millions.
Donc malheureusement, on n'arrive pas à corriger ses blessures. Donc je suis d'accord avec Rigo, c'est dommage. Puis même le fait qu'il sort en pleurs, je pense que lui-même il commence à être résigné au vu de ses blessures. Je pense que bientôt il prendra sa retraite parce qu'il n'en peut plus. Ça va être très dur mentalement de se dire que tu sais que tu étais l'un des espoirs du football en 2016. Tu es toujours un des espoirs du football parce que mine de rien, il n'est pas si vieux que ça. Tu as des qualités indéniables, mais que tu ne peux même pas les mettre au service de ton collectif au quotidien parce que bah, ton corps te refuse ça. C'est, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Vraiment, j'aimerais pas du tout être à sa place. Mais malheureusement, moi, je pense au Paris Saint-Germain. Hein, en même temps, je ne vais pas penser aussi à chaque fois à toute la misère du monde. Malheureusement, je suis désolé. Désolé Renato, mais je suis d'accord avec vous, il va falloir qu'il s'en aille malheureusement. Parce que ça fait quoi? Ça fait trois clubs et trois clubs qui n'arrivent pas à corriger ces trucs. Je pense que c'est incorruptible et je pense que ça va finir en Abu Dhabi malheureusement. Son corps n'arrive pas à suivre son explosivité. Donc voilà, irrémédiablement, à force de se blesser comme ça, il va perdre son football. Déjà qu'il le perd parce qu'il ne le joue pas, il va perdre son football parce que maintenant c'est les blessures qui vont commencer à le faire perdre. Donc je pense que dès que si tu peux t'en déposséder cet été, malheureusement Renato, je suis désolé. En plus, tu sais que je t'aime, on est loxé, tout ça, en bleu sang, ça bouge pas, tu vois. Je te rappelle que je suis plus beau loxé de Paname, mais globalement, non, il va falloir que tu partes, mon frérot. Désolé.
Et puis pour répondre au commentaire de F qui dit qu'on va pas pouvoir le refourguer, oui, on peut s'inquiéter, mais tu sais, il y a énormément de joueurs fragiles, notamment tu disais Abu Dhabi. Il y a énormément de joueurs fragiles qui, à chaque fois, ont trouvé un point de chute. Hein. Il y a toujours des clubs qui font confiance et qui espèrent remettre le joueur sur pied, mais au final c'est juste une déception de plus, et puis ça s'enchaîne, hein, il trouve un autre club, etc., etc. Donc voilà, on trouvera bien un club pour le refourguer, surtout qu'il va pas coûter très cher.
En plus, il a pas un gros salaire. Au moins le Paris Saint-Germain avait bien joué le coup avec la nouvelle politique salariale. Donc non, tu peux y trouver club, c'est pas un problème.
Non, mais après, en soi, on va être aussi un peu honnête. Je veux dire, dans l'émission, on a fait des reproches à Neymar, à Ramos par rapport à leurs blessures. Bah écoute, moi, Renato, je l'aime bien. Hein, moi, j'étais content qu'il arrive. Hein, mais écoute, t'es blessé. Tu joues, tu te blesses. Tu joues, tu te blesses. Désolé, hein, je l'aime beaucoup, hein, Renato, mais tu peux pas. Je veux dire, on peut pas reprocher à Neymar et Ramos d'être tout le temps blessé et dire de Renato, ouais, mais c'est pas sa faute, il est blessé, tu vois. On serait des sacrés hypocrites, tu vois. Donc, à un moment, j'aime bien Renato, mais complètement d'accord, les gars. Je veux dire, si à un moment, fin de saison, bah, écoute,
tu tentes
de le vendre.
Tu sais, tonton, c'est même pas un reproche, moi, que je fais aux joueurs de qui se blessent. Hein. Mais voilà, on pense à l'équipe. Hein, moi, je suis désolé. Malheureusement, on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas prendre toute la misère du monde. Malheureusement, tu te blesses, tu es un poids pour l'équipe. Désolé, Renato. Merci à toi d'être venu au Paris Saint-Germain. Bonne continuation. Comme l'a dit Galtier, j'étais d'accord avec son analyse. Rappelle-toi, tonton, je t'avais dit que c'était un joueur qui pouvait prendre le ballon et se projeter. Chose qui a été faite d'ailleurs ce soir par Fabien Ruiz et de très bonne manière à certains moments du match. Mais bref, Fabien Ruiz...
Moi, je connais pas son hygiène de vie, Vincent, mais si tu as des détails croustillants sur sa vie privée, n'hésite pas à te lâcher dans le chat.
Moi, j'en ai, mais je les donnerai pas ici parce que je suis pas insider. Mais globalement, tu vois, sur le cas Renato, malheureusement, par exemple, Neymar, ses blessures ont été un poids pour le Paris Saint-Germain, mais lorsqu'il revenait, il était performant. Donc, tu n'as rien à dire, mine de rien. Tu n'as rien à dire, il revient, il est performant. Renato, c'est des blessures récurrentes. Neymar, il est là début de saison, après, il se blesse au mois de mars, etc. On connaît ses blessures au mois de mars, mais globalement, il fait une grosse partie de la saison ensemble. Donc, que les gens veuillent qu'il reste, je peux comprendre, ça ne me dérange pas plus que ça. Renato, il a fait quoi? Il a fait 6 matchs depuis qu'il est là, 7 matchs?
Je ne sais même pas compter. J'ai être honnête,
6 matchs dont 4-5 titulaires. Mec, le ratio est très très faible. Le ratio est très très faible. Et à la rigueur, si ce n'était qu'arrivé au Paris Saint-Germain, j'aurais dit bon, ok, on lui laisse une saison de plus. Non, c'est arrivé, et c'est encore arrivé. Malheureusement, ça ne se corrigera pas maintenant. Donc, désolé frérot, bonne continuation et merci à toi d'être venu.
Je pense que c'est pas pour rien aussi s'il n'arrive pas, hein, parce qu'on l'avait pris de base pour qu'il s'impose en numéro 8, sauf que s'imposer box to box et 6, c'est pas pareil, le poste demande des choses différentes. Et s'il n'arrive pas à s'imposer 8, à percuter, à faire ce qu'il faisait avant, c'est juste parce que je pense que physiquement, il n'y arrive plus, les blessures, ça l'a handicap, il n'arrive pas à revenir aussi à son niveau d'antan, et donc il n'arrive pas à faire les efforts pour percuter comme il percutait avant, je pense tout simplement. Au final, s'il... Il est mis numéro 6, c'est pas pour rien, tu vois, ça demande des efforts différents, tu vois. Donc je pense que c'est pas anodin.
C'est pas anodin, comme dirait une équipe qui est en train de jouer contre 3 là. Mais j'allais te relancer, Ricoba, sur un des sujets que je voulais aborder. Du coup, cette fois, je vais l'aborder vu qu'on a fini la partie. Qu'est-ce que tu penses du... Comment dire ? de l'état de forme actuel de Achraf Hakimi. Est-ce qu'on n'est pas sur Hakimi qui retrouverait de la confiance? Et but de Barcola pour Lyon.
Hakimi, il y a eu des périodes en fait. Il a démarré un petit peu mal. Ensuite, petit à petit, on a vu du mieux. Il est défensivement déjà plus solide. Offensivement, quand il y a eu, je me souviens, l'arrivée de Ruiz dans l'équipe, on le trouvait un petit peu plus, il se projetait un peu plus, donc on était content, mais il manquait sa finition, de meilleurs centres, de meilleures passes, de meilleures frappes. Offensivement, voilà, il y avait quelques déchets encore, je l'ai dit très souvent, et je l'ai dit souvent parce que je le mettais dans mes flops, parce que j'attendais plus de lui, et pas parce qu'il avait fait un mauvais match forcément. Mais depuis la Coupe du Monde, voilà, déjà la Coupe du Monde, ça lui a fait beaucoup de bien de retrouver le Maroc, de retrouver une équipe qui connaît, qui lui fait confiance, où c'est un leader. Ça lui a reboosté, je pense, sa confiance. Il a fait des gros matchs aussi, que ce soit défensivement ou offensivement. Et donc, depuis qu'il est revenu, ben, il continue sur sa lancée. Il touche beaucoup plus de ballons, il gagne beaucoup plus de duels. Défensivement, il est toujours aussi fort. Et maintenant, offensivement, il a retrouvé de la confiance aussi. Il est beaucoup plus juste techniquement, il fait les bons choix, il sait garder le ballon quand il faut, il prend sa chance, c'est pas pour rien, hein, tu le voyais pas frapper autant avant. Il repique dans l'axe, il frappe même du gauche, c'est frapper du mauvais pied pour un latéral droit, ça montre que le joueur il est en confiance tout simplement. Et au final, ça paye et ça va l'aider encore plus. Et je pense que là, on a vraiment retrouvé le très bon Hakimi. Je pense qu'on a retrouvé le Hakimi un peu Dortmund-Inter. Et puis en plus de ça, même les joueurs autour de lui, je pense notamment à Messi, il a peut-être compris qu'il fallait peut-être plus lui faire confiance et peut-être plus lui donner le ballon. Et puis c'est criant hein, sur le match contre Montpellier et le match aujourd'hui. C'est criant que Messi a bien compris que le joueur qui pouvait l'aider le plus sur le terrain, c'était Hakimi. Donc c'est bien, franchement, c'est bien. Ça fait plaisir parce que c'est un super joueur et surtout, c'est un très bon gars aussi. Donc voilà, trop cool.
J'allais même te dire, l'arrivée de Ziyech lui a fait beaucoup de bien et ça se voit. Vas-y Barry, qu'est-ce que tu penses toi justement de l'état de forme de Achraf
Qu'on va très vite leur perdre. Et je vais vous dire pourquoi.
Hakimi?
C'est pas pour tirer sur le joueur. Hein.
Non, bien sûr, vas-y, je te
En
laisse
fait,
développer ta théorie. T'as une théorie, c'est ça?
non, du tout, c'est même pas une théorie, c'est une réelle analyse pour le coup, parce que
Bien
sinon j'aurais
sûr.
rigolé avant que voilà, c'est ma théorie. Et je vais vous
C'est
dire
tout à
pourquoi
fait.
on va le perdre très vite. Pour la simple bonne raison que regardez ce qui est sur le terrain et regardez surtout ce qui n'est pas sur le terrain.
Voilà.
Je l'ai répété il y a peu de temps. Et à contrario, regardez lequel des latéraux a fait un mauvais match ce soir. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la simple bonne raison, mauvais match,
Il manquait trois joueurs.
Moins bien.
Ça, quand je dis mauvais match, c'est moins bien par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'au Paris Saint-Germain, le jeu s'axe au côté gauche. Et donc, étant donné que le jeu s'axe au côté gauche, Nuno Mendes, il reçoit des ballons. Le ballon est de son côté. Donc Neymar lui donne des ballons. Mbappé, il peut combiner avec Mbappé, etc. Il mange Gucci, ce gars-là. Il mange Gucci. Non, ce n'est pas Mbappé, c'est les deux. Neymar et Mbappé, parce que mine de rien,
Verratti.
à chaque fois on dit que Neymar est axial, son jeu est axial. Lorsqu'il a le ballon, balle au pied, il essaye de rentrer dans l'axe. Mais Neymar, il s'axe au côté gauche, les gars. Il s'axe au côté gauche.
Et
Donc
même
forcément,
Verratti,
lorsque.
Barry.
Même Verratti. Et encore, Verratti joue un peu plus bas maintenant. Il joue plus en position numéro 6 lorsqu'il reçoit le ballon. Neymar, il s'axe au côté gauche, non pas dans son jeu, mais lorsqu'il va recevoir le ballon. Donc forcément, lorsqu'il reçoit le ballon, voilà, si tu es proche de lui, tu as de la chance, tu vas avoir recevoir des ballons. Tes appels dans les courses, tu vas les recevoir. Tes ballons dans tes courses, pardon, tu vas les recevoir. Et là, le fait que Neymar n'est pas là, bah, tu te rends compte qu'à Messi,
Neymar, ni Mbappé.
qu'à Messi, bah, Messi est devenu la plaque tournante du Paris Saint-Germain. Messi, lui, s'axe au côté droit. Et donc, forcément, Hakimi, qui est plus proche de Messi, il mange Gucci. Et même lorsque Messi n'est pas excentré côté droit et il se retrouve bien au centre, même des fois lorsqu'il se retrouve à gauche, bah, il va tenter de trouver Hakimi parce qu'il y a moins cette relation qu'il a avec Neymar. Tu sais, la relation que j'appelle souvent le jeu à la baballe, le jeu qui me dérange. Et bah du coup, Hakimi, il mange. Il mange Gucci. Et à contrario, aujourd'hui, Nuno Mendes, bah, il est moins bien que d'habitude parce que lui, justement, bah, on le trouve moins. Il y a pas Mbappé, donc il ne combine pas avec Mbappé. Et il y a pas Neymar qui, lui, s'axe au côté gauche. Et mine de rien, bah, il va moins retrouver le ballon. Et donc, Hakimi, lui, il est au cœur du jeu. C'est pour ça que je vous dis qu'on va très vite le perdre. Non pas parce que le joueur est mauvais, mais lorsque Neymar et Mbappé vont revenir, bah, vous allez vous rendre compte que Hakimi, il va moins prendre de ballons. Alors j'espère qu'il va quand même réussir à corriger son jeu comme il a réussi à le corriger, parce que mine de rien, il n'y a pas que les appels. Il est très bon depuis le retour de la Coupe du Monde, parce que mine de rien, il a fait évoluer aussi son jeu entre-temps. Mais je sais qu'il va moins recevoir de ballons, et j'ai peur de perdre. Mais On prend même un autre exemple, l'exemple des buts. Là, parce que là, il a mis deux buts de loin. Il en a mis un contre Montpellier qui a été refusé. Et là, il en a mis un ce soir. On est d'accord?
Oui.
On voyait les frappes de loin depuis le début de la saison?
Non.
Non, pour la simple et bonne raison que là, le ballon tourne plus vite. On est d'accord de voir un meilleur jeu quand même. Enfin, avec cet effectif, hein, je ne parle pas d'un meilleur jeu. Parce que mine de rien, le 3-5-2, c'était le meilleur jeu qu'on avait depuis le début de la saison, vu qu'il y avait les trois meilleurs aussi sur le terrain. Mais au vu de ce qu'on voit depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe possible. C'est le meilleur jeu qu'on ait vu. On est d'accord? Bah, c'est tout simplement parce que déjà, il y a des individualités en moins, qu'il y a un meilleur collectif, que le ballon tourne mieux, que Hakimi peut recevoir des ballons, et que surtout, aux zones de terrain où les frappes sont tentées, parce que Fabien Ruiz a tenté une frappe de loin, Danilo a tenté une frappe de loin, Vitinha a tenté une frappe de loin, Hakimi a tenté une frappe de loin, etc. etc. Donc, Messi a tenté des frappes de loin, il y a moins de personnes à ce niveau-là. Il y a moins de passes qui sont inutiles dans le cœur du jeu. Vous savez, les passes entre Neymar et Messi qui servent à rien. Les passes talonnades, etc. Là, allez, vas-y, va faire ça en Liga, là. Arrête de nous faire ça en Liga, là. Arrête de nous faire ça, là. Pourquoi nous faire ça? Bref, ouais, c'est pas ce qui sert à rien. Bah, il y a moins ça. Il y a plus d'espace. Le ballon tourne mieux. Et mine de rien, bah, l'adversaire, il bouchonne moins l'axe parce qu'il se dit, bah, les côtés aussi, je peux pas les laisser. Et la preuve, le ballon est souvent arrivé sur les côtés. Il y a eu des centres qui sont arrivés. Et Kitike qui n'a pas un bon jeu de tête, mais il y a eu des centres qui sont arrivés dans la surface de réparation qui ont pu être récupérés à un moment par des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc ça prouve qu'il y a une évolution dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas une évolution parce que le coach Galtier a décidé. Il y a une évolution parce qu'il y a certaines individualités qui ne sont pas là. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Barry, arrête, c'est gênant. Allez, bah t'es calme alors, si c'est gênant. Si t'es pas d'accord avec moi, je m'en fous, frère.
Bah de toute façon, on verra. Hein. On a un meilleur Hakimi là. On va voir si au retour de Neymar et Mbappé, il y a une différence. Et si c'est le cas, c'est que oui, effectivement, il y a un commentaire qui est passé avec les trois chefs d'orchestre. C'est pas faux. Donc on verra bien. Mais c'est clair que si à leur retour, Hakimi est de nouveau bridé et moins bon, c'est que clairement, ouais, il y a une différence. Mais de toute manière, on l'a dit. Et c'est pour ça que voilà, Messi, comme on le dit, Messi, il est incroyable. Mais à un moment donné, il va falloir penser au collectif. Et on le voit encore sur ce match-là, il y a quand même beaucoup plus d'efforts sur le pressing, sur les mouvements, sur le contre-pressing. C'est criant, je trouve. Donc ouais, il va falloir un, deux max de chef d'orchestre parce que tu as quand même, je trouve, besoin d'un Neymar. En tout cas, le binôme Mbappé-Neymar fonctionnait très bien. Donc on verra ce qui va se passer. Mais bon, j'espère que ça ne bridera pas Hakimi en tout cas parce que là, il est vraiment revenu à un gros, gros niveau. Mais c'est sûr aussi qu'il a beaucoup plus de responsabilités forcément, même offensivement avec les absences des deux.
Mais en soi, pour revenir aussi sur Hakimi, je rejoins moi la théorie de Barry. De toute façon, ça fait longtemps qu'on en parlait sur la chaîne. Déjà l'an dernier, on se posait la question. Au tout début, on s'est posé la question. Est-ce que Hakimi, il est boycotté? Et après, bah non, en fait, il n'est pas boycotté. Parce que quand tu regardes les matchs, t'as Nuno Mendes, Verratti, Mbappé et Neymar qui monopolisaient l'axe gauche. On sait que Messi, il le faisait déjà au Barça. Tu sais, au Barça, il aimait bien faire crochet du gauche et tac, je renverse sur Jordi Alba. Donc du coup, bah, Nuno Mendes en a profité. Et bah, quand tu additionnes tous ces éléments, bah, ouais, c'est sûr que bah, Hakimi, c'est compliqué pour lui. Là, dans ce type de match, bah, ça a été plus simple pour lui. Et d'ailleurs, tu remarqueras, pour une fois, ils avaient un moment, pendant le match, ils ont mis la palette sur Amazon. Tu voyais que le PSG passait à 35% par la droite et 28% par la gauche. Bah oui, je pense que c'est complètement lié aux absences.
C'est bien de sortir les stats, parce que je crois qu'on ne voit pas les mêmes matchs que certaines personnes dans le chat. Vraiment, je pense qu'on ne voit pas du tout les mêmes matchs.
Non, regarde, sur Amazon, tu vois, moi j'ai regardé des matchs sur Amazon, en tout cas, sur Amazon, à un moment, ils t'ont fait, tu sais, le fameux tableau où ils te montrent bah, par où viennent les attaques du PSG, tu sais, comme ils le font à chaque match, même sur Canal, quand tu regardes les matchs sur Canal. Et là, tu voyais, moi j'étais choqué pour une fois, tu voyais, le 35% venait de la droite et 28% venait de la gauche, alors que d'habitude, genre, tu dois être, je crois que tu es à 24% du côté droit, 22, tu vois, et tu es à 38, 39 du côté gauche. Là, vraiment, tu as senti, il y a eu vraiment une répartition qui s'est complètement inversée sur ce match.
Il n'y a même pas besoin de sortir les stats. À partir du moment où tu vois que Nuno Mendes est moins bien ce soir, alors que justement Nuno Mendes est un joueur qui est toujours dans le top, alors que lorsqu'il est revenu de blessure, bah, mine de rien, il n'a pas fait les mêmes matchs. Alors soit c'est physique, ou soit clairement il reçoit moins de ballons qu'à l'accoutumée.
Après, je pense qu'il fait attention aussi. Je pense qu'il essaye de se préserver un peu. Il a joué un peu avec le recul, je trouve.
Même il a pris un carton jaune au début de la seconde mi-temps. Donc tu sais, quand tu es un latéral, que tu sais que chaque contact, tu dois faire attention parce que tu sais que tu peux te prendre un deuxième jaune et tu vas mettre tes kills dans le pétrin, il y a de ça. Mais je veux dire, non, je pense qu'il a plus été moins utilisé que d'habitude parce que je sais pas si ça vous a parlé à un moment, la feinte qu'il met à l'ailier là de Toulouse là, où il tape une accélération, où il tape du
Ouais,
0 à 100 en une seconde là, et qui sert à Messi derrière. Non, non, il n'a pas perdu de ballon. Je pense juste que Messi il revient de blessure. Il s'est pris un jaune en début de deuxième mi-temps. Et forcément, quand tu additionnes ces deux choses, tu dis on va lever un peu le pied, on va pas jouer de la même manière que d'habitude, parce que ce serait con que je me rechute ou que je me prenne un rouge, tu vois. Surtout que tu approches du Bayern, tu joues Marseille bah, mercredi. Donc là, tu rentres dans cette partie du calendrier. On va dire que c'était le dernier match d'échauffement. Là, on rentre dans le concret. Donc, tu ne peux pas, lors du dernier match d'écho, te péter ou prendre un deuxième jaune. Donc, je pense que tu peux ajouter ça aussi dans le fait d'expliquer la performance de Nuno Mendes. Et en parlant de performance, les gars, j'allais vous demander, et même à vous dans le chat d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est quoi votre top et flop du match?
Attends, je peux juste répondre à un commentaire. Alors,
Vas-y.
S'il te plaît.
arrêtez de dire ça pour les individualités. Les trois de devant ont joué qu'une mi-temps ensemble, c'est contre Reims. On parle de la relation technique entre Neymar et Messi. Donc, alors franchement, Vincent, hein, si t'es pas d'accord avec, si t'es pas
Non,
d'accord
après, peut-être mal
uniquement,
compris, tu vois.
non, non, mais non, je pense clairement qu'il n'est pas d'accord pour nous contredire. Si t'es pas d'accord avec nous en disant que la relation de Neymar et Messi, elle est un frein, non pas parce que les mecs sont bidons, mais justement empêche les autres joueurs de pouvoir pratiquer un bon football, franchement, revois les matchs du Paris Saint-Germain ou change d'équipe parce que c'est pas possible de. Tout le monde est unanime dessus, mais vraiment tout le monde, hein, tous les acteurs du football, même Thierry Henry, alors que Thierry Henry, toujours, il défend les institutions générales hein, sur Amazon, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Amazon. Même Thierry Henry l'a dit que cette relation-là commençait à devenir pesante pour le Paris Saint-Germain. Donc si tu n'es pas d'accord avec nous, franchement, alors que l'ensemble des acteurs est d'accord avec nous, que ce soit les supporters, les entraîneurs et tout le monde, et même l'entraîneur de Reims te l'a encore expliqué, revois les matchs du Paris Saint-Germain parce que franchement, tu te trompes d'équipe là, c'est pas possible. Toi, tu regardes le Paris FC, je pense.
Alors justement, je vais répondre à Nice en commentaire qui voulait parler des corners à deux joués. Bah, ce soir, c'est le pire exemple que tu puisses faire parce que bah, le but de Messi vient d'un corner à deux joué par Carlos Soler et Nuno Mendes qu'il a passé à Kimi et qu'il a remis à Messi dans l'axe. Alors d'habitude, je suis d'accord avec toi, j'adore dire le corner à deux, c'est fini, on n'est pas Guardiola, on n'est pas en 2011. Mais là, pour le coup, s'il y a bien un soir où il ne faut pas dire les corners à deux. Je pense que ce soir, on peut se taire sur les corners à deux parce que l'un des deux buts qu'on met, il est sur un corner à deux. Donc, je suis d'accord avec toi d'habitude, Anis, mais là, c'est pas ce soir. Pas ce
Mais
soir.
ouais, mais God First aussi, tu veux pas revenir aussi en l'an 2? En début de saison, oui, mais depuis le début de la saison, ok. Est-ce que tu vois le même jeu? Même dans le 3-5-2, est-ce que tu as vu le même 3-5-2 depuis le retour de la Coupe du Monde que le 3-5-2 sans Mbappé au début de saison? Non, tout a changé. Tout a clairement changé. Vraiment tout, tout, tout. Donc si tu me parles du début de saison, oui, au début de saison, tout le monde faisait les efforts. Messi aussi faisait les efforts. On l'a souligné ici. Tout le monde faisait les efforts. Tout le monde jouait ensemble. Mais depuis le mois de septembre, bah, c'est parti. Même depuis le mois d'octobre, je dirais. C'est parti, ça ne se fait plus. Neymar et
Les
Messi jouent à
doublés
la
de Harry
baballe.
ce soir.
C'est la vérité. Si, si, si.
Merci
Quand je te
Harry.
dis, quand je te dis quand je te dis que Neymar et Messi jouent à la baballe, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire de ne pas jouer sans, de ne pas toujours rechercher leur relation technique. Mais depuis le mois de novembre, c'est ce qu'ils font. Depuis le mois d'octobre, c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, s'ils reviennent à un football simple, où ils ne cherchent pas forcément à se trouver, mais à faire jouer l'entièreté de l'équipe de par leur vision de jeu et de par leur qualité technique, comme Messi ce soir, ou comme Neymar lorsque Messi n'était pas sur le terrain, oui, très intéressant. Mais là, actuellement, non, les mecs jouent à la baballe une fois qu'ils sont sur le terrain ensemble.
Moi, pour répondre vite fait aux commentaires de on vendra Messi Ney, enfin on perdra Messi Neymar Mbappé et tout le monde va pleurer. Je sais plus qui c'est qui a écrit ça, je l'ai vu passer là. Eh ben, figure-toi que personnellement, en tant que supporter parisien, ça me fera ni chaud ni froid parce que moi, je pense avant tout au club, avant tout à mon équipe, avant tout au jeu qu'on pratique, au collectif. Et je pense que c'est très bien de voir les trois, c'est très beau, c'est voilà, c'est une chance aussi. Mais je pense collectivement que c'est mieux avec seulement deux ou avec seulement un. Voilà, c'est
Alors
tout.
moi j'ai juste posé la question sincèrement
Et
parce
je
que ça
suis
c'est
ni
un
pro
truc.
Mbappé, ni pro Messi, ni pro
Non,
Neymar, ni
regarde,
voilà.
sans être pro quoi que ce soit, rien. Sans être pro quoi que ce soit. Ça, c'est un débat, à un moment, il faut l'entamer. Si tu veux une équipe entière, il faut dégager Mbappé la noisette. C'est Neymar qui a servi d'exemple sur les 5 dernières années? Ou c'est
Ah mais.
Mbappé qui était le rookie de Neymar et qui est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde? Je demande au cas où parce que c'est important la répartition des rôles de. Quel est le joueur que tu veux critiquer et pourquoi tu le fais et qui tu supportes? Peut-être que tu supportais le Barça et que tu as suivi Neymar quand il arrive au PSG. Je ne te ferai pas la critique, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Mais à un moment, tu ne peux pas dire que c'est Mbappé le problème au PSG.
Non,
Moi, regarde, attends, on va séparer tout ça. Messi, c'est un de mes joueurs préférés. Vraiment, c'est un joueur, genre, je l'ai adoré, tu vois, vraiment, c'est hallucinant ce qu'il a fait dans le foot, ce mec. C'est vraiment hallucinant. Je veux dire, sa saison 2012, il avait fini le jeu en 2012. Mais ce mec, on l'applaudit pour ce qu'il a fait à Barcelone. Depuis qu'il est à Paris, il a gagné la Copa América et la Coupe du Monde avec l'Argentine, alors qu'il n'a jamais gagné de trophée avec l'Argentine quand il était à Barcelone. Peut-être parce qu'il était plus focus sur Barcelone qu'à l'Argentine. Faut se poser les bonnes questions. Mais à Paris, ça ne marche pas. Et c'est pas grave. Merci Messi pour ce que tu as fait, mais tu ne peux pas me dire que le Messi que tu as là depuis 2 ans, c'est Messi 2012, Messi 2019. Ça
Après,
reste un très
c'est un
bon
choix à
joueur,
faire.
hein.
Hein. C'est un choix à faire. Hein. Pour moi, c'est simple. Hein. Dans cette équipe,
Voilà.
faut qu'il y en ait un des trois qui sorte. Alors, soit tu te dis que ta figure de proue est Kylian Mbappé, car il a 24 ans et en plus c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Oui, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Je le répète. Soit tu te dis ça, ou soit tu te dis que tu veux conserver les deux autres et avoir un jeu. Mais dans tous les cas, va falloir changer quelque chose. Si tu mets Mbappé au cœur de ton projet, alors dans ces cas-là, le jeu que vous attendiez tous, parce que je pense que c'est un jeu de possession que vous attendez tous, malheureusement, ça ne sera pas le meilleur jeu à mettre en place pour optimiser les qualités de Kylian Mbappé. Et la deuxième chose, c'est soit vous, et si vous voulez mettre Messi et Neymar au cœur du jeu, bah dans ces cas-là, on aura un jeu de possession, mais on aura beaucoup de jeux stériles et beaucoup de joueurs bridés. Maintenant, faut savoir. En tout cas, moi, il y en a un des trois qui doit partir. Et moi, de mon avis, celui des trois qui doit partir, mine de rien, bah moi je dirais même pas que c'est Messi. Parce que mine de rien, Messi n'a aucune valeur marchande. Moi je dirais Neymar parce que Neymar a une valeur marchande et qui peut te permettre avec un chèque que tu auras de reconstruire derrière. Moi c'était mon avis. Mais après, moi je suis pas dans les chiffres donc je m'en moque un peu. Bref. Top et flop. Merci Samir.
Ouais,
Merci Samir.
merci Samir. Mais ouais, top et flop. En fait, le truc, c'est que ce que j'ai vu un commentaire laisser Messi, Neymar, Mbappé, machin. Mais on n'en parle même pas. C'est juste qu'il y a toujours les mêmes personnes qui viennent dans les commentaires. Mbappé, c'est un sprinter. Mbappé, c'est le problème. Mbappé, il est nul. Ou alors Messi, il est nul. Ou alors Messi. Eh, c'est bon, les pros, ceux qui regardent le foot pour un joueur, ça suffit à un moment donné. Nous, on parle du
Exact.
club. Donc, à la limite, vous pouvez débattre avec des mecs qui aiment Neymar, qui aiment Messi. Mais nous, on parle du PSG. Voilà, on parle pas de Mbappé, on n'a pas une vitrine de ces joueurs à un moment donné. Enfin
Ah quand ils
bref.
font des matchs éclatés au sol, on le dit, hein, Mbappé,
Voilà.
il a beau être sorti sur blessure le dernier match, je l'ai carabiné pour ses deux
Et
pénaltys
puis
ratés. Hein.
surtout, à un moment donné, tu peux penser que Messi est le meilleur joueur du monde, il est exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas dire à côté que Mbappé, c'est un nulard, que c'est juste un sprinter. C'est pas possible. Enfin bref. Du coup, top et flop.
Top et flop,
Alors vas-y,
vas-y,
je vais
à toi
commencer.
l'honneur.
Mais top, je vais mettre Messi Hakimi déjà, forcément. Ils ont fait un gros match, ils ont porté l'équipe comme contre Montpellier. Et après, en troisième, j'hésite entre Danilo et Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui est bien revenu sur cette deuxième mi-temps, qui fait un bon match. Mais je pense que je vais mettre Danilo parce que. Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est ça exactement.
Voilà, ça c'est
Mais
mon avis, je suis
en
d'accord
fait,
avec ce monsieur.
c'est quelque chose que certaines personnes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils peut-être ils sont pas assez supporters d'un club. Donc ils comprennent pas, mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas, mais il y a des débats, des fois, on peut pas être d'accord. Bref, du coup, dernier joueur, je vais mettre Danilo, parce que mine de rien, couteau suisse, que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain, il fait le taf, il récupère beaucoup de ballons, il nous sécurise derrière. Donc voilà, j'aurais pu mettre Donnarumma aussi, hein, qui a fait un gros match, mais voilà, mes trois tops seront Hakimi, Messi et Danilo.
Alors, top, Danilo. Danilo, parce que, bah, comme l'a dit Eric Aubin, un couteau suisse, le gars, tu vas à la guerre avec lui, avec un cure-dent et un briquet, il peut tuer des mecs avec des AK-47. Il est trop fort, ce gars-là, c'est trop. Vraiment, tactiquement, alors quand je dis qu'il est trop fort, c'est pas le mec qui va te. C'est pas Casemiro, hein, c'est pas ce que je dis, mais tactiquement, dans la combativité, et puis même, il est toujours juste, il fait toujours. Ce que j'aime bien, c'est qu'il connaît ses défauts, et il a de réels défauts, sa vitesse, donc il a corrigé sa vitesse par son placement tactique, sa vision de jeu, donc il a corrigé sa vision de jeu en donnant le ballon à qui peut le faire au bon moment, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher uniquement Messi parce que c'est Messi, il va chercher le bon joueur qui est le mieux placé pour pouvoir lui justement scanner le jeu. Et ça c'est très malin, je vous invite à revoir, hein. Mais à un moment il se retrouve à côté de Messi, il va chercher le ballon à l'opposé, à Vitinha. Quand j'ai à l'opposé, c'est pas une transversale, hein. Mais il donne le ballon à Vitinha pour la simple et bonne raison qu'il sait que Vitinha est mieux placé que Messi. Et donc forcément, Vitinha sera plus intéressant sur l'action que à ce moment-là. Donc Danilo, couteau suisse. Et voilà, donc clairement, sa combativité, elle est hyper bonne au Paris Saint-Germain. Mon deuxième top, c'est Lionel Messi, qui est même pour moi l'homme du match, hein. Même pas. J'enlève le terme homme du match. Lionel Messi, parce qu'il a fait un excellent match. Hein. Et encore, voilà, la preuve que. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est anti-Messi. Non, Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et encore l'un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Maintenant, voilà, moi, comme j'ai dit, c'est soit Neymar, soit Messi. Personnellement, si l'un des deux part, ça me fera pas mal. Je comprends ceux qui veulent que ce soit Messi, parce que logiquement, ça devrait être Messi au vu de son âge. Mais ça ne veut pas dire que le mec n'est pas exceptionnel. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il est dans le top 5 actuellement. Il est extrêmement fort. Mais que malheureusement, sa prolongation ne rentre pas dans une cohérence sportive. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour revenir au top et flop, frappe du milieu de terrain, transversale, vision de jeu. On a même retrouvé à un moment le Messi de la Coupe du Monde. Tu sais, quand il fait ses petites projections balle au pied, parce qu'il n'a plus les jambes forcément pour se projeter, mais ces petites projections balle au pied pour faire remonter le ballon, etc., comme à la Coupe du Monde, bah forcément, vu que là, l'axe est moins bouché, parce que Toulouse est obligé justement de revenir aussi sur les côtés, parce que les côtés étaient très forts aujourd'hui, bah forcément, Messi, il a beaucoup plus d'espace, et il a pas un deuxième joueur en numéro 10 qui peut lui croquer l'espace, et donc il peut faire très mal dans ses déplacements. Donc, exceptionnel Messi ce soir, franchement, rien à dire. J'ai un Messi champagne, je pense qu'il aurait mérité un doublé, clairement, Messi champagne. Et pour moi, l'homme du match, du coup, Hakimi. Hakimi, parce que Hakimi, que ce soit défensivement ou offensivement, il a été très très fort. Et franchement, il a été comme De Bruyne quand il... C'est vrai qu'il suit beaucoup du crâne, le Danilo. Ouais.
Ah, raison, quand il suit du crâne, c'est comme De Bruyne quand il est tout rouge.
Ouais, mon super top, bah, c'est Hakimi. Mon super top, c'est Hakimi. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur aujourd'hui, offensivement, défensivement. Alors, il a été ailier, il a été latéral. À un moment, il était piston. À un moment, il était milieu gauche. À un moment, il était numéro 10. À un moment, il était relayeur. Il était partout sur son côté droit. Exceptionnel, Hakimi. Donc merci, c'est ce qu'on attend de toi. Comme quoi, lorsqu'on avait fait la vidéo sur Mukele et que je me suis fait tacler, bah mine de rien, j'avais bien raison. La concurrence lui fait du bien à Hakimi. Elle lui fait beaucoup de bien. Et on retrouve un Hakimi vraiment, vraiment très, très fort.
Et un doublé pour Samir ce soir, qui lui aussi a marqué plus de buts que certains de nos attaquants, dont on taira le nom ce soir.
C'est ça, attends, tu m'as dit, là j'ai dit les tops, mais on va parler des flops. Les flops.
C'est parti.
Le premier flop, il n'est même pas sur le terrain, il n'est même pas au bord du terrain, c'est Campos. Campos, car on voit encore que son recrutement est moisi. Campos, je te préviens, la prochaine vidéo qu'on fait sur toi, tu vas manger, frère. Parce que là, tu vas manger, je vais t'éteindre.
Le problème, c'est donc Campos. Ben écoutons, Viron.
Il y a une caméra qui demande.
J'ai pas dit qu'on le vire. Tu vois, c'est ça le problème. Là, tu viens de souligner un point. C'est que vous voyez, une fois qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est directement viré. C'est pas parce qu'on dit qu'une personne a fait du mauvais travail qu'il faut le virer. C'est différent. Bah, Pochettino, la saison dernière, après les six derniers mois, j'ai dit qu'il faisait du mauvais travail. Mais à aucun moment, j'ai demandé à ce qu'on vire. Je ne demande jamais à ce qu'on vire les gens, mais il a fait du mauvais travail. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il a fait du mauvais travail, regardez encore ce qui se passe encore aujourd'hui. On le voit, il manque des profils essentiels à cette équipe. Et même pour le coup, je n'ai pas envie de dire qu'on l'avait dit, parce qu'on n'est pas non plus des experts du football et on n'est pas les rois du football sur Paris Central, loin de là. Mais je vous invite à revoir les lives de cet été. Et on l'avait dit qu'il allait manquer un profil hyper important au milieu de terrain, un milieu de terrain physique. Et on le voit lorsque Renato est sur le terrain, bah Renato, mine de rien, il a porté ça aussi, du physique. Lorsque Danilo est en position numéro 6, c'est ce qu'il apporte, du physique. Et Campos a mal ciblé les profils psychologiques déjà dans un premier temps de ce qu'on voulait au Paris Saint-Germain, même si les joueurs ne sont pas mauvais, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais, mais il leur manque quelque chose autour d'eux pour être encore plus bon. Fabien Ruiz, moi, je l'ai vu jouer à Naples. J'étais très content qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Maintenant, Fabien Ruiz, je vous invite à voir ce qu'il faisait à Naples. À côté de lui, il avait un Zambo Anguissa qui mettait les tampons qu'il fallait et qui faisait le travail physique que Fabien Ruiz ne faisait pas. Et si moi, je l'ai vu, Campos, il l'a vu. Donc, il manque un profil. Et Campos, lui-même, l'a dit quand il est parti sur RMC. Il manquait un profil. D'ailleurs, j'attends son truc demain. Demain, je vais faire un live pour lui. Si je suis seul, je m'en fous, je vais le faire. J'attends de voir ce qu'il va dire sur
demain, sur Téléfoot. Oui, il y a un live prévu sur Paris Central à 12h30. Après Téléfoot, si tu veux, tu rejoins Nice.
Parfait. Je serai là. On va en parler. On va en parler demain. On va en parler. Mais clairement, oui,
son recrutement n'est pas mauvais,
mais il manque des trucs. Donc oui, Compo, je le mets en flop. Pour moi, Compo, je le mets en flop.
On revient sur la piste de
sur le terrain. Non, parce que t'es très malin, parce que là tu vois que je suis en train d'attaquer Campos, c'est toi comme t'as un pro Campos, c'est pour ça que tu veux me revenir.
Tu veux me revenir. Tu veux demander tes flops du match.
Je te dis Campos flop, je te dis Campos. Écoute, Écoute, regarde, je t'ai dit compo slop, t'as voulu me bifurquer sur un truc, bah virons compos, alors j'ai jamais parlé de virer. Donc du coup, je suis obligé de t'expliquer mon raisonnement. Donc compos en flop, en deuxième flop, en deuxième flop, bah, qui est ce gars-là? Qui est-il? Qui est ce monsieur? Je ne sais toujours pas qui est ce gars-là. J'ai joué à un qui est. Je suis tombé sur sa carte et je ne comprends pas qui est ce gars-là encore. Carlos Soler, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Un moment, Christophe Galtier, j'espère que tu vas voir cette vidéo et sincèrement. Oui, moi, Carlos Soler a des qualités footballistiques.
Basto, il regarde le live.
Non, mais oui, Basto regarde le live. Et Dryas aussi, j'ai vu dans le chat d'ailleurs, Dryas. À qui je passe un gros big up, Dryas. T'as vu le mois de mars qu'on va vivre côté UFC, c'est magnifique. Mais Carlos Soler, oui, il a des qualités indéniables. Oui, c'est un très bon joueur de football. Enfin, très bon, non. C'est un bon joueur de football. Mais à un moment, il est mauvais au Paris Saint-Germain. Mets-le sur le banc. Tu veux quoi d'autre? Tu veux que... Qu'est-ce qu'il a? Moi, je pense qu'il a une sex-tape de toi, je suis sérieux. En vrai de vrai. Non, mais plus sérieusement. Il est mauvais, mais le sur le banc, tu parlais d'arrêter avec la concurrence. Mais nous, Warren. Et même si Warren fait un mauvais match, bon, on va le descendre. On va le critiquer. Mais là, pour le moment, Carlos Soler fait des mauvais matchs et tu le laisses sur le terrain. Oui, Renato est blessé, mais là, Renato n'était pas blessé ce soir. Que fait Carlos Soler sur le terrain? Désolé, mais il n'a rien à faire sur le terrain. Voilà. Et il doit sortir, normalement, il sort à la 50e. Mais bon, bref. Et ensuite, le dernier flop, bah, c'est le super flop pour moi. Hein, le super flop est critiqué. Et qui est ce monsieur numéro 44, à un moment, je pense que c'est le numéro 4, comme tu as dit. Hein. Lui, c'est un double flop. Tu vois, lui, il a deux malédictions, lui. C'est-à-dire, il s'est rajouté dans les problèmes. Non, mais j'ai pas envie de tirer parce qu'il est jeune et qu'il a le temps de se développer. Mais ok, d'accord, t'as le temps de te développer, mais actuellement, t'es mauvais, frérot. Actuellement, t'es mauvais. Donc, voilà, là, ce soir, arrête de décrocher, frérot. Ok, d'accord, c'est ton jeu. À Reims, c'est ce que. À Brest, il vient de Brest ou Reims? Il vient de Reims, c'est ce que j'ai raconté, il vient de Reims. À Reims, c'était ton jeu. Oui, tu décrochais beaucoup. Et t'es pas à Reims, hein. T'es au Paris Saint-Germain, mon frérot. T'es au Paris Saint-Germain. Et t'es pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il décroche, ok, mais il met 50 buts par saison. 56 buts cette saison précisément. En 56 matchs. Tu t'appelles Hugo Ekitike, frérot. T'as rien fait encore dans le football. Donc quand on dit tu te fixes devant la défense, arrête de décrocher pour rien. Tu te prends pour un joueur qui est déjà accompli, t'es personne, frérot. Donc s'il te plaît, écoute les consignes du coach, écoute un peu ce qui se passe sur le terrain et ensuite tu pourras décrocher lorsque tu auras un statut. Là, tu n'as aucun statut. C'est le moment de justement prouver au coach. Et mine de rien, je tire dessus, mais il n'a pas été si dégueulasse que ça parce que à certains moments, il a fait des bons déplacements, etc. Nanana, et il n'a pas forcément été trouvé. Mais dans la globalité de son match, il est catastrophique, ce mec-là. Il est fantomatique. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, lui aussi? Et malheureusement, c'est le sel neuf. Bref.
Le thème de ce soir, c'est qui est ce monsieur, hein? Il n'a pas menti en commentaire. T'aimes bien sortir la vanne ce soir. Mais pour conclure sur mes top et flop, très honnêtement, allez, je vais commencer par les flops. J'ai pas aimé le match de Carlos Soler. Je ne vais surtout pas noter Renato Sanchez pour le peu de temps qu'il a passé sur la pelouse. Non, Z, espèce d'assassin, je ne vais pas faire ça. Je t'ai vu, c'était Sanchez dans les flops. Non, je ne citerai pas son nom parce qu'il n'a pas assez joué pour qu'on puisse le critiquer ou l'encenser ce soir. Mais non, je n'ai pas aimé le match de Soler, je n'ai pas aimé le match de Ekitike non plus, qui a du mal au PSG. Ça peut s'expliquer, hein, il est jeune, première saison, on ne l'a pas recruté dans le bon profil, hein, on a recruté Ekitike parce qu'il est grand, pensant que ça allait être un pivot. C'est un faux neuf, il fallait regarder les matchs de Reims l'an dernier. Je peux comprendre que tout le monde n'en avait pas forcément le temps. Mais obligé de le mettre en flop ce soir parce que, bah, non. Et le dernier, qui n'est pas passé entre les gouttes, Gigi, je te rappelle, non, je te rassure, Vitinha, parce que... Mais Vitinha, ça s'explique, parce que je vais le rejoindre à notre flop. Je vais tricher, je vais faire un double flop. Vitinha, parce que bah, il n'a pas joué dans ses compétences habituelles, il a joué beaucoup plus haut que ce qu'on lui demande, il n'a pas la confiance, ça c'est vu, je suis désolé, mais à un moment, il reçoit deux ballons, il doit frapper en première attention, il contrôle la balle, et ça, ça pue le manque de confiance, ça pue le joueur qui transpire pas la manque de confiance, qui tire avec la peur, comme disait Mbappé à Guendouzi, parce que quand tu n'as pas peur, Vitinha, il aurait dû envoyer deux cachous dans la surface en première intention, et il ne l'a pas fait, et Vitinha, s'il n'a pas été bon, et là, j'en venir à mon double flop, c'est grâce à Christophe Galtier qui, cette semaine en conférence de presse, et je vous invite à voir son horrible conférence de presse, qui disait « Vitinha, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il fait en début de saison, il est super mal utilisé ». D'accord, Christophe Galtier, mais qui met Vitinha en l'utilisant mal? Je sais pas, il y a un truc sur Amazon, si vous regardez les matchs sur Amazon et Canal, à un moment, ils précisent que Christophe Galtier est l'entraîneur du club. C'est bien de le préciser parce qu'à un moment, j'ai un doute. Parce que tu peux pas dire en conférence de presse, Vitinha, il joue super mal, il est super mal utilisé. C'est toi qui fais la compo au chacal. C'est toi
Ah,
qui
c'est
fais la
vrai qu'il est
compo.
fou ce mec-là, mais hey, ses conférences de presse, elles sont lunaires. Et c'est un
Non, non,
malade, mais c'est un
voilà,
malade mental.
Vitinha,
Vraiment, c'est un
bien
fou.
sûr que Vitinha, c'est un flop ce soir, mais qui est l'abruti qui met Ekitike? Alors, pour moi, Ekitike n'a pas le niveau.
Mais là que
Alors, c'est
lui.
ton avis. Pour moi, Ekitike, genre, il est trop jeune et il est mal utilisé. Et je pense qu'il
Je pense non, je pense
peut-être
qu'il
un
est trop
bon
jeune.
remplaçant à terme. Être un bon remplaçant à terme. Je n'ai pas
Non, mais
dit que ce
je
serait un
pense qu'il
crack
est trop jeune.
international.
Il est trop jeune, mais mine de rien, les gars, je parle sincèrement. Franchement, c'est pas pour faire l'expert du football, mais je regarde le football depuis très longtemps. Et les profils comme Ekitike, c'est du pain béni, les gars. Je vous le dis,
Non, il faut un prof à côté de lui.
il a un
Il faut un prof.
profil exceptionnel, ce gamin. Il a vraiment un potentiel
Bon, faut qu'il
énorme.
aille à la...
Maintenant, il faut
Par contre,
qu'il
faut qu'il aille
travaille.
à la salle. Faut qu'il aille à la salle
Non,
de muscu,
non.
clairement aussi.
Avant de se muscler ici, faut se muscler dans la tête. Il faut que son mental suive. Et lorsque son mental va suivre, et bah, mine de rien, hey, je suis désolé, hein, mais moi je me mets à la place d'Ekitike. Parce que vous, en fait, on a été bousillés par les Mbappé, les petits jeunes comme ça qui arrivent directement à s'implanter à des. À
Cristiano,
des
Messi.
à, voilà. Mais ça, c'est des talents générationnels. Mais mine de rien, même hors talent générationnel, on a été bousillés les dernières années par des jeunes qui arrivaient à venir dans des vestiaires, etc. Les gars. Je vous vois prendre parce que j'ai vu les tweets sur ouais mais regardez Haaland lorsqu'il arrive, regardez Mbappé lorsqu'il arrive, regardez truc quand il arrive dans son club, etc. Déjà de 1, ça c'est des talents générationnels. Et hormis le fait que ce n'est pas des talents générationnels, hey, ces mecs-là, lorsqu'ils arrivent, ils n'arrivent pas avec Messi, ils n'arrivent pas avec Neymar, ils n'arrivent pas avec Kylian Mbappé dans leur vestiaire, Verratti, Marquinhos, etc. Lorsque Mbappé arrive au Paris Saint-Germain, il n'y a personne à sa place. Y a personne, il y a personne, il a pas, il a rien à gagner, il a rien à gagner. Je parle de sa place, hein. Il a rien à gagner. Il est titulaire directement. Y a personne à sa place. Lorsque Haaland arrive à Dortmund, il y a personne. C'est directement, c'est la figure de proue. Et Ekitike, lorsqu'il arrive, il arrive dans un vestiaire, déjà dans un vestiaire qui est gangréné par plusieurs clans, mais surtout dans une équipe qui brille, qui est sur le feu des projecteurs et avec des paillettes partout. Donc malheureusement, c'est très compliqué son adaptation. Mais à un moment, je suis désolé, écoute tes consignes du coach. Te prends pas pour quelque chose que tu n'es pas. T'es pas encore arrivé, frérot. T'es loin d'être arrivé. T'es très très loin d'être arrivé, frérot. Ton potentiel, tu l'as toujours. Ton niveau, tu l'as toujours. Mais t'es très très loin d'être arrivé. Donc, travaille. Accepte le fait que tu n'es pas dans les lumières parce que tu n'es pas dans la lumière et tu ne seras pas dans la lumière avant très longtemps au Paris Saint-Germain. Et lorsque tu seras, tu seras. Regarde Warren. Warren, il est même pas sous le feu des projecteurs et pourtant on commence à le mettre sous le feu des projecteurs parce que son talent, son niveau et la manière dont il arrive avec maturité sur le terrain commence à faire qu'on commence à le mettre dans on commence à le mettre dans l'équation. Toi, t'es pas encore arrivé, frérot.
Ah, je ne répondais pas à Vanna, hein, on ne sait jamais, hein, ce serait bête de refuser une invitation du club. Mais non, blague à part, oui, le problème vient de plus haut que dans le coach. Et oui, ça a été bien dit dans le chat,
Oui,
il a raison.
clairement.
Alors, bon, pour terminer ce live, du coup, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé.
Ah, j'ai pas le droit de faire mes
Remercie.
flops. Ah.
Ah, t'as pas fait tes flops, Ray Coba?
Non. Non, mais c'est pas grave, j'aurais
Bien
dit les
joué.
mêmes de toute manière. Juste, j'aurais
Bon,
défendu
bien
Donnarumma
joué.
quand même, qui fait une boulette hein, sur le. Clairement, lui, c'est le mur, c'est pour lui. Hein. Le premier but, il est pour lui. Mais derrière, il fait quand même 2-3 arrêts. Il capte le ballon sur le deuxième coup franc qui est très dangereux. Il y a les trois Toulousains qui lui sautent dessus. Et il arrive à bien la capter. Il y a énormément de gardiens qui l'auraient relâché. On aurait pris le but. Le dernier, à la toute dernière minute, il fait un arrêt réflexe où il va très vite au sol. Donc, voilà, quand même Donnarumma. Même si le premier but, il est pour lui, il se rattrape bien derrière. Et si on prend 3 points, c'est aussi grâce à lui quand même. Donc, voilà, le mettre dans les flops, c'est dur. Je ne vais pas le mettre dans les tops, mais le mettre dans les flops, quand même, c'est dur, je trouve. Et sinon, pour les autres, ouais, j'ai les mêmes. Hein. Soler, Vitinha et Ekitike qui, bon, voilà. Pour Vitinha, il a perdu son football. Je trouve qu'à un moment donné, tu veux faire jouer la concurrence, comme Galtier le dit, ben, Mesut Emery, à un moment donné, lui, il est prêt, comme l'a dit Barry, il a largement la maturité pour jouer. Et puis pour Ekitike, je pense que voilà, je pense aussi qu'il n'a pas le niveau PSG. Après, il a beaucoup de potentiel. Un club normal l'aurait prêté. Simplement, nous, on l'a acheté en prêt parce qu'on n'avait pas les finances. Donc, on ne pouvait pas le prêter derrière. Voilà, c'est aussi ça
Mais il sera prêté cet été. Moi, je vous dis, il va aller faire ses armes ailleurs, c'est sûr. Il sera prêté cet été. Parce que c'est au vu de ce qui manque au Paris Saint-Germain, mine de rien, il manque pas énormément. Il manque
un
un gros
Leipzig, je serais
milieu,
pas
un
insensé.
défenseur. Il manque un gros milieu, un défenseur et un attaquant pour avoir une
Un
équipe
par ligne,
titulaire. Et après, un ailier qui serait sur le banc, qui pourrait. Un par ligne. Un par ligne. Enfin, à part la ligne d'attaque où il en manque deux. Mais globalement, c'est ce qui manque. Donc on est pas si loin que ça. Hein. Quand je dis que le mercato de Campos. Après, je m'arrête là, hein, désolé, mais quand je dis que le mercato de Campos est raté, on n'est pas si loin que ça. Mais force est de constater que son mercato, il n'est pas au niveau, il manque des trucs. Et très important, cette équipe, il n'y a rien. Vas-y, Rico Bac, je vais finir.
Tiens, pour répondre aux commentaires de Milton, je crois, Milton Ivan, qu'est-ce qui manque, vous ne parlez de ça, de rien, machin. Bon, on parle globalement du match, donc on ne peut pas parler de tout. En plus, on a parlé pas mal du trio aussi, alors que c'était pas forcément dans le sujet. Mais je t'invite, demain, il y a un live, si je crois, vers 13-14h, ça va parler PSG.
10-30.
Donc voilà.
Non, oui, même, et c'est vrai qu'on a parlé plus longtemps que d'habitude. D'habitude, les lives sont plus courts que ça. Là, on a un petit peu profité. Alors, pour répondre à RM, NJRSI, Kalimundo est meilleur que Ekitike et Randal Kolo Muani, qui était gratuit cet été, il graille les deux dans un sandwich en même temps. Voilà, tu vois, je t'ai démonté ta théorie en 2-2. Mais bon,
complètement merci. D'accord, mais je me rappelle que Kalimundo était vendu parce que le club avait besoin d'un chèque.
Exactement. Par rapport à FF. Et tu aurais pu quand même récupérer Randal Kolo Muani libre. Mais bon,
et Ekitike sera payé la saison prochaine. Donc Ekitike n'a pas encore été acheté. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc il sera payé saison prochaine.
Et puis on sait jamais. Peut-être qu'on pense à trouver une manœuvre pour ne pas payer l'option d'achat d'Ekitike. Peut-être qu'on ne l'achètera pas, sait-on jamais. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vois qu'on est encore 251 en live.
Et l'important, c'est les 3 points, comme dit Amazgi là. Actuellement, il le faut.
L'important, c'est les pouces sur les lives aussi. C'est les abonnements si vous êtes nouveau sur la chaîne.
L'important, c'est le collectif.
Exactement. Merci à Eve, merci à Harry, merci à Samir pour les dons. J'espère que j'ai oublié personne aussi au niveau de ce côté-là. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à venir demain dès 12h30 avec Nyx qui fera un live qui va faire très 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 polémique au niveau de son titre. Est-ce que Pochettino avait raison? Je vous laisse aller insulter Nyx comme il faut demain dans les lives du commentaire. Non, blague à part. Merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas, ici c'est Paris.